Un soir, ma mère est même pas revenue pour dîner. Le lendemain, il faisait nuit encore quand l'oncle Édouard m'a secoué aux plumes pour que je me rhabille en vitesse. Il m'a prévenu. C'était pour embrasser grand-mère. Je comprenais pas encore très bien. J'étais pas très réveillé. On a marché vite. C'est rue du Rocher qu'on allait, à l'entresol. La concierge s'était pas couchée. Elle arrivait avec une lampe exprès pour montrer le couloir. En haut, dans la première pièce, il y avait maman à genoux, en pleurs contre une chaise. Elle gémissait tout doucement, elle marmonnait de la douleur. Papa, il était resté debout. Il disait plus rien, il allait jusqu'au palier, il revenait encore, il regardait sa montre, il trifouillait sa moustache. Alors j'ai entrevu grand-mère dans son lit, dans la pièce plus loin. Elle soufflait dur, elle raclait, elle suffoquait, elle faisait un raffut infect. Le médecin, juste, il est sorti, il a serré la main de tout le monde. Alors moi, on m'a fait entrer. Sur le lit, j'ai bien vu comme elle luttait pour respirer. Toute jaune et rouge qu'était maintenant sa figure, avec beaucoup de sueur dessus. Comme un masque qui serait en train de fondre. Elle m'a regardé bien fixement, mais encore aimablement, grand-mère. On m'avait dit de l'embrasser. Je m'appuyais déjà sur le lit. Elle m'a fait un geste que non. Elle a souri encore un peu. Elle a voulu me dire quelque chose. Ça lui râpait le fond de la gorge, ça finissait pas. Tout de même, elle y est arrivée, le plus doucement qu'elle a pu. « Travaille bien, mon petit Ferdinand », qu'elle a chuchoté. J'avais pas peur d'elle, on se comprenait au fond des choses. Après, c'est vrai, en somme, j'ai bien travaillé, ça regarde personne. On a fermé notre boutique, on a déroulé tous les stores. On avait comme une sorte de honte, comme si on était des coupables. On n'osait plus du tout remuer pour mieux garder notre chagrin. On pleurait avec maman, à même sur la table. On n'avait pas faim, plus envie de rien. On tenait déjà pas beaucoup de place et pourtant, on aurait voulu pouvoir nous rapetisser toujours. Demander pardon à quelqu'un, à tout le monde. On se pardonnait les uns aux autres. On suppliait qu'on s'aimait bien. On avait peur de se perdre encore, pour toujours, comme Caroline. Et l'enterrement est arrivé. L'oncle Édouard, tout seul, s'était appuyé toutes les courses. Il avait fait toutes les démarches. Il en avait aussi de la peine. Il ne la montrait pas. Il n'était pas démonstratif. Il est venu nous prendre au passage, juste au moment de la levée du corps. Tout le monde, les voisins, des curieux, sont venus pour nous dire « Bon courage ». On s'est arrêté rue d'Hauteville pour chercher nos fleurs. On a pris ce qu'il y avait de mieux. Rien que des roses. C'était ses fleurs préférées. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Valentin Dedon et je suis ravi de vous retrouver sur Radio G pour un nouvel épisode d'Albertine, l'émission qui se souvient de nos grands-mères. De lundi par mois à 13h, en semaine impair, mais aussi quand vous le décidez sur radio-g.fr, on se souvient de nos grands-mères avec une ou un invité. Rien que des roses pour l'enterrement de grand-mère Caroline. Une douceur, une lueur qui vient éclairer la langue étonnante, crue et argotique de Louis-Ferdinand Céline dans le roman Mort à crédit, paru en 1952 chez Gallimard et dont je viens de lire un extrait en exorde de cet épisode. Ça ne rendra surtout pas le personnage sympathique, mais signalons quand même que le choix du pseudonyme de l'auteur en question, il est né Louis-Ferdinand Destouches, lui fut inspiré par le prénom de sa grand-mère maternelle, Céline donc. Mon invité du jour s'est lui aussi renommé ou dédoublé pour exercer son art musical, entre autres. Il est Benjamin Stave, Stave tout court sur les scènes, et son dernier album, sorti en 2024, Contre-temps, est rempli de pépites entre spleen amoureux et désir présent, dansant, une sorte de joie triste que reflète aussi son visage à ce micro. Bienvenue Benjamin et merci d'avoir accepté l'invitation d'Albertine.
Merci à toi.
Alors Benjamin, première question rituelle de cette émission. C'était quoi le prénom de tes grands-mères?
Ma grand-mère paternelle s'appelait Eugénie et ma grand-mère maternelle s'appelait Jacqueline.
Et toi, comment tu les appelais? Comment tu les surnommais?
Ma grand-mère paternelle, je l'appelais Mamie Jardin et ma grand-mère maternelle, je l'appelais Mamie des Cloches.
Waouh, là, il y a une singularité d'entrée là, sur les surnoms.
Enfin, on l'appelait d'ailleurs dans la famille, c'était pas que moi. Parce qu'en fait, ma grand-mère, je sais pas si ça vient de mon père ou de ma mère. Pour ce qui est de ma grand-mère, bon, elles avaient toutes les deux un jardin. Mais ma grand-mère paternelle, elle habitait avenue Maurice Tarda à la Roseraie à Angers. Et elle avait. C'était ces maisons un peu d'après-guerre des années 50. Je pense des maisons de famille ouvrière qui ont été construites. Pour des grandes familles, mais c'est des maisons vraiment sur deux étages, avec le strict nécessaire et tout ce qu'il y a. Et il y avait un jardin derrière, et il y avait deux cerisiers dans ce jardin. Et je pense que ça venait de là, parce qu'au mois de juin, on escaladait dans les cerisiers pour aller chercher les cerises. Et on passait beaucoup de temps dans le jardin, on faisait beaucoup de... fait, c'est vrai que du côté de mon père, c'était une famille. C'était beaucoup d'apéros, beaucoup de choses comme ça. Et l'été, on passait beaucoup de temps dans le jardin. Et je pense que c'est pour ça qu'on l'appelait Mamie Jardin. Et Mamie des Cloches, du coup, ma grand-mère maternelle, habitait à Nueil-sur-Layon, donc dans le Layon, après Douai-la-Fontaine. Et elle habitait à côté d'une église, en fait. Et du coup, on entendait les cloches. Mais c'était vraiment la maison collée. Enfin, il y avait la rue qui jouxtait l'église et c'était la maison collée. Et voilà. Et puis, ma grand-mère était quand même très catholique et investie. En fait, elle était pharmacienne. Et du coup, elle s'est beaucoup investie. Je ne sais pas comment on dit, mais d'une manière militante. Enfin, elle a été à Lourdes. Son métier de pharmacienne l'a amenée à aider quelques démunis via l'église. Donc, elle nous emmenait aussi à l'église, ce qui m'emmerdait un peu, moi. Mais en tout cas, ouais, on entendait tout le temps les cloches sonner.
Alors, on a bien fait les présentations là, voilà. À travers ces deux éléments qui les caractérisent, là, le jardin et les cloches. Alors, on peut commencer par Eugénie, donc Mamie Jardin à Angers, à la Roseraie. À quoi elle ressemblait ? Qui c'était, Eugénie ?
Eugénie, c'était une femme assez... Enfin, dans le souvenir que j'ai, c'était une femme assez forte, mais au sens propre comme au figuré. Corporellement, c'était une femme assez forte, assez généreuse. C'était une famille... Moi, en fait, j'ai jamais connu mes grands-pères. En fait.
C'était deux grands-mères seules, qui vivaient seules.
Ouais, voilà. Et j'avais posé la question à mes parents il y a quelques années, savoir si leur rencontre... Parce qu'ils se sont rencontrés à la fac et ils ont perdu un peu mes grands-pères, leur père, à peu près au même âge, en tout cas. Ils avaient 55 ans, mes grands-pères. Et du coup, en fait, j'ai des images assez fortes de chefs de famille, je pense, de mes deux grands-mères, en tout cas. Mais de manière...
Des matriarches.
Ouais, voilà, de manière complètement différente. Déjà parce que dans la famille de mon père, ils sont trois frères et une sœur. Et ils avaient une autre sœur que je n'ai pas connue aussi, qui est décédée quand elle était jeune. Donc c'était une famille très... comme je te le disais, mon grand-père était ouvrier, ma grand-mère a toujours, je crois, été... Enfin, je sais qu'elle a travaillé, mais moi je l'ai toujours connue. Déjà elle était à la retraite, mais c'était vraiment la femme au foyer, en fait, et qui élevait ses enfants. Et du coup, connaissant mes oncles et mon père, et puis même moi après, je pense que c'était des garçons assez... c'était une éducation très droite, et tu sais, c'était... Il y avait peut-être deux ou trois chambres dans la maison, donc ils vivaient tous dans la même chambre. Et puis voilà, famille... Bon, après, ça a évolué, mais famille quand même assez gauche militante. Et ils ont tous direct travaillé dans la fonction publique, il y avait cette éducation-là. Et ma grand-mère, du coup, ils venaient beaucoup la voir, en fait, ma tante et mes... Et mon père et mes oncles. Et puis du coup, par pièce interposée, ma mère adorait ma grand-mère paternelle et tout. Et on faisait beaucoup de choses, en fait, chez ma grand-mère. Il y avait toujours, comme je te dis, des apéros. Elle nous invitait toujours. Elle faisait toujours Elle était très généreuse. Et du coup, dans la nourriture, c'était très généreux. Ma mère a pendant longtemps galéré à trouver une nourrice pour moi, puis pour moi et mon frère, parce que j'ai un petit frère, on a 3 ans d'écart. Et j'ai passé beaucoup de temps, notamment chez ma grand-mère, mais dans ma famille paternelle en général, parce qu'il y a aussi ma tante qui m'a gardé, qui était aussi femme au foyer. Et voilà, donc c'était un peu une grand-mère très accueillante. Pour moi, c'était toujours très... on va dire, j'ai des souvenirs de goûter, où on chamaille dans le jardin, où on grappe dans le cerisier. C'est vraiment... on avait le droit un peu de faire... je pense qu'on courait dans la maison. Et elle n'était pas laxiste, je dirais pas. Mais en fait, c'était assez bizarre. Il y avait assez un truc, une tranquillité. Je dirais pas qu'on faisait des bêtises, on chahutait et tout, mais il n'y avait pas non plus... En fait, elle était assez cool, mais il n'y avait pas de débordement. Je ne saurais pas comment expliquer ça. En fait, elle n'était jamais dépassée par les événements.
Ça, c'est propre à l'espace grand maternel, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on a... j'ai l'impression que ce que tu es en train de dire, c'est que là-bas, il y avait quelques libertés, quoi. Ouais. Tu avais quelques libertés, mais elles étaient raisonnables, cadrées.
Voilà, ouais. J'étais jeune, hein, c'est des souvenirs. Mais j'avais pas l'impression qu'on lui faisait. Oui, voilà, qu'on la perturbait trop, en fait.
En tout cas, on a l'impression que tu nous décris Eugénie comme quelqu'un de très fédérateur, qui a continué à unir la famille, à réunir la famille. Il y a quelque chose de ça.
Ouais, alors sur une première partie de mon enfance, ouais, c'est exact. Après, mais j'avais une famille très, en fait, du côté de ma famille paternelle. Sur une première partie de mon enfance, tout le monde vivait à Angers, en fait. Donc c'est vrai qu'on se réunissait. Au moins une fois tous les week-ends, et puis moi j'y allais en semaine, les vacances, tout ça. Et puis comme je disais, j'étais gardé par ma tante, donc, qui était la femme du frère de mon père. Et eux habitaient à Bamako, à côté de Chevrolier, donc c'était le même quartier. Et c'est vrai que j'étais beaucoup dans ce quartier, et il y avait mes cousins, il y avait tout. Donc on avait, à cette époque-là, après voilà, ma famille s'est un peu plus disloquée.
Il y avait une grande proximité. Quoi,
ouais, voilà, il y avait une grosse proximité. Et puis,
on vivait ensemble.
Hein. Ouais, c'était vraiment. J'ai l'impression qu'en fait, ils étaient potes, quoi. Et je voyais pas d'autres. Ils avaient pas d'amis, forcément.
Mais c'était aussi comme nous, on a des amis. C'était un cercle. Je vais pas dire fermé, c'est pas forcément péjoratif. Mais
ils faisaient les choses ensemble. On faisait beaucoup de bouffe. Voilà, il y avait toujours. Je pense, je me trompe peut-être parce que c'est loin, mais il y avait toujours.
Mais c'est ton souvenir, c'est comme
voilà,
ça dans ton souvenir.
Voilà, et il y avait toujours, je me rappelle, de grandes tablées, de. Voilà, ça faisait. C'était leur manière, un peu, je pense, à eux de passer du bon temps, de faire la fête, ou comme voilà, des gens vont. Moi, je vais plus aller au bar, avec mes amis. Mais voilà, je pense qu'il y avait. C'était pas avec une famille, c'était aussi leurs amis. Enfin, ils étaient amis, quoi.
Et depuis le début, l'aspect culinaire revient souvent par petits morceaux, par petits bouts dans ce que tu dis.
Ouais.
Eugénie, c'était une bonne cuisinière, c'était des belles tablées. Tu as des souvenirs de plats, tu as des souvenirs de goûters particuliers, de petites choses que tu mangeais
ouais.
que là-bas.
Bah, je me rappelle qu'à son enterrement, j'avais écrit un texte sur ces. En fait, on faisait souvent des tartines grillées pour les goûters. Et c'était les. Tu sais, les grille-pains où on voit les fils électriques là, et où on peut mettre des grandes tartines.
On voit le pain, on
le met sur de chaque côté
du
grilloire. Et à l'époque, comme elle habitait à la Roseraie, il y avait, je crois que c'est un géant maintenant sur le supermarché, mais ça s'appelait Super M. Et je crois que c'était l'ancêtre de Monoprix, en fait. Et je me rappelle qu'elle achetait, tu sais, ces grandes baguettes de pain blanc, en fait, mais qui ne sont pas chères, quoi. Parce que ma grand-mère n'avait pas forcément beaucoup, je pense, une grosse retraite. Et du coup, il y avait déjà le Lidl, elle achetait. Et elle achetait des panachés, je me souviens. Et on faisait des grandes tartines de pâte à tartiner. Mais moi, j'avais écrit ce texte parce qu'en fait, ça me semblait des tartines immenses, en fait. Et j'étais toujours très content de faire griller ce pain et que le Nutella, il fonde dessus. Et j'avais le droit de boire des panachés chez ma grand-mère. Et comme mes parents buvaient des bières, buvaient du vin, et j'avais déjà ce truc un peu de vouloir faire comme les grands, je crois. Et voilà, j'ai ces deux souvenirs-là, ces tartines grillées, ce panaché de chez Lidl.
Et alors de l'autre côté, Jacqueline, mamie des cloches, qu'est-ce qu'elle avait, elle, de particulier ? À quoi elle ressemblait, si tu devais un peu nous la dessiner ?
Alors, Jacqueline, c'était un autre monde, mais très intéressant aussi. C'était une femme beaucoup plus petite et beaucoup plus, on va dire, fine, corporellement en tout cas. Mais c'était une femme aussi très forte. En fait, l'histoire de Jacqueline, c'est qu'elle était pharmacienne. Comme je l'ai dit, et elle a monté une pharmacie avec mon grand-père, et puis du coup mon grand-père est décédé, et elle a tenu la pharmacie toute seule, et elle a eu plus un rôle vraiment de. Donc elle était chef d'entreprise, entrepreneur, Vraiment un rôle de chef de famille assumé. Mais je pense dans la personnalité, parce qu'elle avait une personnalité beaucoup plus stricte que Eugénie. Et c'était un peu plus une obligation pour moi d'aller chez à l'époque. Je pense que j'étais un enfant un peu rebelle quand même. Et
c'était un peu plus loin, c'était plus moins ancré, comme l'autre famille, comme ancré, tu disais, ouais. Où on vivait ensemble. Il fallait y aller, c'était une obligation d'aller rendre visite.
Et je pense autant il y avait les Noëls. J'adorais les Noëls chez Jacqueline parce que c'était des très gros Noëls. Et puis du coup, c'était une famille plus aisée, donc on était aussi plus gâtés sur les cadeaux. Et je voyais mes cousins, du coup, du côté de ma grand-mère Jacqueline, je voyais mes cousins qu'une fois par an. Et j'avais... parce qu'en fait, c'était une famille... donc ma mère a un frère et une sœur. Un frère qui s'est marié et j'ai eu deux cousins et une cousine. Ils ont fait trois enfants. Enfin non, quand j'étais petit, je devais les voir un peu plus souvent parce qu'ils habitaient à Mur-et-Régnier, mais je me rappelle que je les voyais beaucoup plus rarement parce que je pense qu'il n'y avait pas ce côté un peu... chacun faisait beaucoup plus individualiste, chacun faisait un peu sa vie, comme dans plusieurs familles. Et j'ai une tante, Elisabeth, qui, elle, ne s'est jamais mariée, n'a pas eu d'enfant. Mais du coup, j'avais ce rapport un peu plus avec Elisabeth parce qu'elle elle nous adorait et on a fait pas mal de choses. Mais c'est vrai que quand j'adorais les Noëls à Nueil-sur-Layon, mais c'est vrai que des fois, mes parents m'envoyaient une semaine chez ma grand-mère Jacqueline. Et c'est vrai que c'était un peu plus la vie de campagne, déjà. Là où moi, j'avais toujours vécu en ville. J'étais un enfant qui aimait regarder la télé, qui aimait... j'avais déjà mes copains dans le quartier. Enfin, il y avait ce côté moins facile, en fait, et... plus aussi propice à l'ennui ou à des occupations. Ma grand-mère Jacqueline était, enfin, comme je l'ai dit, c'était une entrepreneuse. On était quand même dans un milieu de campagne, quand même de droite. C'était une personne qui lisait beaucoup, très intellectuelle. Elle voyageait beaucoup, elle voyageait seule. C'était quelqu'un qui avait pas peur de la solitude, justement. Elle a fait beaucoup de voyages. Et puis, comme je te disais, elle était. C'était aussi des voyages en lien avec, je pense, son implication. Je ne me suis jamais trop renseigné là-dessus, mais je sais que voilà, son implication dans l'Église catholique, mais de manière, je ne sais pas comment on dit, parce que je m'y connais, mais d'une manière assez militante, d'aller aider des gens.
Ouais, un engagement,
un
en tout cas.
Un peu pèlerinage, ou je ne sais pas. Et du coup, c'est une personne qui n'avait pas peur de la solitude et qui avait vraiment des épaules...
on sent une
qui
personnalité...
vivait toute seule dans une maison de 300 mètres carrés.
On sent une personnalité forte, quoi.
Ouais, carrément. Mais les deux avaient des personnalités fortes, mais de manière complètement différente, en tout cas.
Ouais, ça dessine aussi un peu les deux espaces familiaux, leur particularité, leur singularité. Je me disais, toi, le rapport à l'art, à la création, est-ce qu'il est arrivé par un personnage de la famille ou c'est complètement... Tu estimes que c'est complètement détaché de ça ?
Non, ouais, c'est clairement mon père, le rapport. Enfin, je pense que le premier rapport à l'art, c'est mon père. Mon père qui a toujours qui a fait les beaux-arts quand il était jeune, mais de manière les cours du soir.
Il avait cette sensibilité-là.
Ouais, il a toujours dessiné, il a fait de la sculpture, il nous a appris à dessiner avec mon frère, il nous a appris... nous a appris la sculpture, donc plus un rapport aux arts visuels quand on était jeune. La musique, pas vraiment. J'y suis venu moi-même. Je pense que j'ai écouté beaucoup de dance à l'école primaire, puis j'ai très eu envie de me croire sur scène. Je faisais des spectacles avec des potes où je prenais ma lampe torche et je faisais un micro, et puis je suis tombé dans le rap au début du collège, vraiment. Mais de manière très passionnelle, parce que je me couchais. J'avais un poste, mes parents m'avaient acheté un poste cassette où on pouvait enregistrer la radio. J'écoutais des émissions sur Skyrock très tard la nuit pour avoir des morceaux déjà de rap indépendant et tout. Je suis tombé dedans très, très vite. Mais c'est avec mon père.
Et tes grand-mères, tes deux grand-mères, ou l'une des deux, t'as vu. Commencer à faire ça, rapper, chanter, elles avaient un... Non,
non, non, parce que... Enfin, Alors, je dessinais beaucoup chez mes grand-mères à l'âge petit. Mais il y a quand même, comme je te disais, bon, alors, du côté de ma grand-mère, du côté de ma mère maternelle, c'était un peu moins lié. Donc, comme je te dis, on était moins. Mais j'ai moins vu mes grand-mères à l'adolescence, en fait. Et du côté de mon père, la famille, c'est un peu plus. Il y a une partie de la famille qui est partie vivre à Nice. Puis voilà, je pense que tu sais, c'est un peu comme nous. Enfin, c'est des choses dont on ne se rend pas compte, mais. À l'âge adulte, bah voilà, il y a des séparations, il y a des choses comme ça.
Il y a une prise d'indépendance aussi, oui, propre à chacun. Voilà.
Et comme je te dis, en plus, c'était un lien très. En plus d'être familial, c'était un lien qui pouvait me faire penser à des amitiés, en fait, qui se retrouvent. Et voilà. Et du coup, mes grands-mères aussi ont eu des problèmes de santé, toutes les deux. Donc, en fait, j'ai perdu Jacqueline en 2014 et Eugénie en 2018. Mais ma grand-mère maternelle, en fait, a eu un zonage. Ma grand-mère du côté de ma mère a eu un zona à un moment. Et elle a eu un traitement assez violent, en fait. Et c'est un peu ce traitement qui l'a. Ça lui a fait perdre un peu. Voilà, elle n'a pas eu Alzheimer, mais voilà, elle avait des grosses pertes de mémoire. Elle se rappelait plus vraiment de nous. Et ma grand-mère. Et ça a duré quand même une dizaine d'années, en fait, avant son décès. Et là où justement c'était une femme très. En plus, c'était un peu bizarre pour nous. Et en fait, pendant longtemps. En plus, elle n'a pas été mise en maison de retraite. En fait, pendant longtemps, ma mère, ma tante et mon oncle y allaient. Je me rappelle qu'au moins pendant 5 ou 6 ans, ils y allaient au moins une fois, un week-end, en fait, ils se partageaient, ils passaient du vendredi au dimanche soir. Ça a dû être assez dur pour eux, chez elles, en fait. Et ma grand-mère maternelle, c'est différent, c'était plus des soucis physiques, en fait, corporels. Et ça a duré un certain nombre d'années. Et puis, elle a été en maison de retraite au Pont-de-Cé pendant un certain temps. Et c'est vrai que moi, à ce moment-là, c'était entre mes, on va dire, mes 15 et mes 20. Enfin, ça dépend. Mais ouais, plus entre mes 15 et mes 30 ans, quoi. Ça a été une période où moi, je rentrais dans une forme beaucoup plus individualité, beaucoup plus enclin à l'égoïsme, des choses comme ça. Et je sais pas, voilà, j'ai d'ailleurs écrit dans un album. Benji,
dis-moi, ça fait combien de temps que voilà. T'es allé voir mamie ? T'attends qu'elle soit plus là pour enfin écrire l'album de l'année.
Voilà, c'est ça, exactement.
Je l'avais sur le bout des lèvres depuis tout à l'heure parce que ça exprime exactement ce que tu es en train de nous dire, quoi.
Voilà. Et du coup, j'ai eu donc j'allais voir mes grands-mères, mais déjà c'est vrai que ma grand-mère maternelle avait du mal à se rappeler de moi, donc ça c'était un peu et en plus de ça je pense que j'avais une situation familiale avec un truc dont j'ai pas parlé. Et ma grand-mère paternelle, j'allais la voir, mais c'est vrai qu'aller à la maison de retraite, je pense que j'étais pas du tout dans une forme d'introspection comme je le suis aujourd'hui, même par rapport à l'écriture, donc c'est pas des choses que je conceptualisais, j'étais un peu dans le déni de ça. Mais je pense que c'est des choses qui me faisaient pas forcément du bien, quoi, sur le coup. Mais du coup, et en plus de ça, moi en fait je viens d'une famille où dans mes deux familles je suis un peu l'enfant du milieu, en fait. Il y a mon frère qui est plus petit, mais j'ai des cousins plus âgés que moi de 5 ou 6 ans de différence à partir de là, et qui sont plus âgés, et des cousins-cousines qui sont plus petits.
Et qu'est-ce qu'elle a comme impact, cette position ?
Bah, cette position a fait que à partir de mes 12 ans à peu près, déjà bah, mes cousins plus vieux ne venaient plus au repas de famille, et je me retrouvais un peu le grand à la table des petits, et je faisais ma crise d'ado, en plus j'étais en rébellion.
Décalage.
Voilà, j'étais en décalage, et je pense que d'une certaine manière j'ai un peu lâché l'aspect famille, parce que j'adorais traîner quand j'étais jeune avec mes grands cousins. J'ai toujours aimé traîner avec des gens plus grands que moi, enfin en tout cas sur toute mon adolescence, parce que ça me permettait.
Et là, tu les avais plus dans l'espace familial.
Voilà, et j'étais plus avec les petits, et du coup il fallait aller chercher ça ailleurs, donc je préférais traîner avec des grands dans le quartier, des choses comme ça. Et c'est vrai que dès que j'ai pu, j'ai esquivé pas mal les
En tout cas, aujourd'hui.
Les repas de famille où je m'ennuyais plus et j'avais plus cette effervescence que j'avais quand j'étais petit. Je pense qu'il y a eu la naissance de mon frère aussi, d'une certaine manière, où, parce que de mes zéros à mes. Mon frère est né quand j'avais 3 ans et demi, et de mes zéros à mes 3 ans et demi, je pense que j'ai eu une position de petit prince parce que j'étais beaucoup. Comme je t'ai dit, ma mère ne trouvait pas de nourrice, donc j'ai été gardé par ma tante. J'étais avec mes grands cousins.
Ouais, tu restais couvé par cet univers familial.
Voilà, donc il y a eu plusieurs événements, je pense, qui font que.
Et aujourd'hui, tu constates ça de manière neutre ou tu ressens une culpabilité ou tu qu'est-ce que tu fais de tout ça?
Non, je ressens pas vraiment une culpabilité. Tant mieux. Et puis je suis quelqu'un qui essaye de. Voilà, j'ai l'écriture dans ma vie, donc ça m'aide beaucoup. Et puis, du coup, maintenant, aujourd'hui, je suis quand même très proche. Je vois moins les autres personnes de ma famille, mais c'est vrai que j'ai repris, il y a quelques années, j'ai repris contact avec un de mes cousins. On s'est beaucoup vus. Enfin, on a beaucoup échangé. On a vu qu'on avait des points communs. Je suis très proche de mes parents. Je suis revenu vivre à Angers pour être proche, pour être près de mes proches amis, mais aussi. Ça, oui, je l'ai compris après. Je vais souvent voir mes parents. C'est des gens qui me conseillent aujourd'hui et qui sont. Voilà, il y a quand même eu un retour. Mais je pense que c'est.
Il y a un mouvement de reconnexion peu à ça et qui est certainement logique et classique dans nos évolutions.
Et puis, et je pense que ce côté aussi égoïsme dont je te parlais, mais qui est plus peut-être de l'ordre d'être auto-centré, à un moment, j'ai aussi travaillé en tant qu'artiste. Il y a un moment, en fait, et même dans mon cercle amical, dans des choses comme ça. Voilà, il y a plein de choses qui font dans ma personnalité qu'ils font qu'à un moment, j'ai aussi accepté le fait que j'étais quelqu'un d'auto-centré, en fait.
Et en même temps, c'est aussi en tant qu'artiste, tu avais besoin aussi de créer tes choses et d'aller dans des univers et de faire tes propres.
J'avais besoin de voler de mes propres ailes, mais voilà, il y a des aspects. Parce que souvent, on dit. D'une personne qu'elle est auto-centrée, on n'ose pas se l'avouer, mais en fait j'ai compris qu'il y avait des points aussi bien négatifs que positifs là-dedans et qu'il fallait que ça faisait partie de ma personnalité et que je compose avec.
Et c'est aussi se connaître.
Voilà, et c'est se connaître et c'est je préfère me dire ok, je suis comme ça, on va apprendre à vivre comme ça et des fois on va pouvoir mettre cette partie de la personnalité à profit ou pas à profit et c'est aussi grâce...
Il y a toujours les deux versants.
Voilà, en m'acceptant comme ça que je peux aussi... aller aussi pouvoir de temps en temps mettre cette personnalité de côté et pouvoir m'ouvrir plus au monde extérieur et aux autres, et notamment à la famille ou les amis.
Et Eugénie et Jacqueline, elles existent comment encore aujourd'hui?
Comment elles existent? On en parle, dans la famille, on en parle beaucoup. Il y a des photos, il y a beaucoup de choses.
Elles sont là.
Moi, j'ai récupéré beaucoup de meubles de Jacqueline. Parce que c'était quand même... Comme je te disais, c'était une personne très cultivée. Et elle avait fait beaucoup de voyages et elle avait aussi trouvé beaucoup de meubles. Voilà, donc j'ai beaucoup de meubles de vaisselle de ma grand-mère chez moi. On s'est tous partagés parce qu'on s'est retrouvés quand même pendant quelques années après sa mort à faire Noël dans sa maison, toute la famille sans elle. Là, la maison a été vendue il y a 3-4 ans, je crois. On l'a vidée l'année du Covid. Et du coup, tout le monde a récupéré un peu des choses. Il y en a chez mes parents aussi, donc c'est vrai que Jacqueline... Je vis beaucoup comme ça. Et puis, c'est vrai que du côté de mon père, on se retrouve toujours. Et c'est vrai que ma grand-mère est toujours présente. Il y a toujours des blagues de ma grand-mère. On a des souvenirs de ce que je te racontais en début de...
Oui, des petits motifs récurrents, les cerises, le jardin. Ouais. Très bien.
Et j'avais lu ça à l'enterrement. À son enterrement, ça avait fait rire tout le monde. Et c'était marrant. Je me rappelais. Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle maintenant.
Benjamin, il est déjà l'heure de mettre fin à cette conversation grand-maternelle. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Albertine.
Merci beaucoup.
Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode d'Albertine.